Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce.
On retrouve Manuela à Fiji.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Storia Voce, merci de votre fidélité, de vos encouragements et de votre soutien, sans lequel, vous le savez, cette radio ne pourrait exister. Continuez donc à le faire en partageant le podcast et en vous rendant sur la page « Soutenez-nous » de notre site. Sa silhouette colossale est devenue à elle seule le symbole de Venise. Ses mosaïques d'or éblouissent ceux qui les contemplent depuis des siècles. Édifiée au IXe siècle pour accueillir les reliques de l'évangéliste Saint Marc, elle est réduite en cendres par un incendie avant d'être reconstruite, agrandie, réagencée. Je parle bien sûr de la basilique Saint Marc, ce joyau architectural byzantin qui depuis près de 1000 ans est l'orgueil de la lagune. C'est à elle que j'ai voulu consacrer cette émission Nos Mémoires. Et donc j'ai la joie de recevoir au micro de Storia Voce Frédéric Lauritsen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien byzantiniste. C'est donc principalement l'Orient médiéval qui est votre champ de prédilection et d'étude. Et vous nous accueillez ici à Venise, qui est votre ville. Et avec vous, nous reparcourrons non pas toute l'histoire de la basilique, mais les années de sa construction, ce qui nous permettra, in fine, d'explorer les dynamiques à l'œuvre à travers cet édifice sur lequel s'est bâti en grande partie tout l'imaginaire politico-religieux de la Sérénissime. Alors tout commence, on le sait, avec une décision du doge Partecipatio, celle de subtiliser les reliques de l'évangéliste Saint Marc à Alexandrie en Égypte. Alors qu'est-ce qui motive cette décision politique ? S'agit-il d'une question de prestige uniquement ou bien est-ce que c'est plus complexe que cela ?
C'est un peu mystérieux la motivation qu'a eu le doge Partecipatio au IXe siècle changer le saint principal qui protégeait la ville de Venise, parce qu'il faut penser qu'avant le saint principal était Théodore d'Amasie, qu'on voit aujourd'hui sur une des deux colonnes de la piazzetta di San Marco. À gauche il y a cette magnifique colonne avec le lion ailé, peut-être un chef d'œuvre sassanide, mais à droite on voit aussi une colonne avec ce saint militaire qui est en train de tuer un crocodile. Donc c'est la caractéristique de Théodore d'Amasie, un saint très important, jusqu'au IXe siècle, quand les reliques de Saint Marc sont portées d'Alexandrie à Venise. Théodore d'Amasie, c'était un saint militaire local d'une partie de l'Anatolie. Le remplacer avec un évangéliste qui était l'écrivain personnel de Saint-Pierre, c'est quelque chose de très important et très significatif, surtout pour des gens croyants. Ça voulait dire changer le statut religieux de la ville, qui était maintenant protégé par un des saints principaux de l'Église de l'époque. Aussi, le fait qu'il c'était un évangéliste était important pour le lien avec Constantinople. Constantinople, qui était un peu la ville modèle pour Venise et des autres zones de la Méditerranée, surtout orientale, mais aussi de l'Adriatique. Car l'empereur Constantin, quand il avait décidé de devenir chrétien, il a commencé à bâtir une église qui s'appelle Sans Apôtres, qui n'existe plus, mais où il devait être, son sarcophage devait être au milieu, celui de Constantin, et aux quatre côtés, il devait avoir les évangélistes, Jean, Luc, Matthieu et Marc. Donc Marc, en vérité, devait pas être à Venise, il devait pas être à Alexandrie, il devait être à Constantinople, selon la volonté de l'empereur. C'est quelque chose que le doge Partecipatio probablement savait très bien. Et donc le lien avec l'apôtre Marc, au mieux l'évangéliste Marc, est très important parce que ça montre ces liens, pas seulement des croyances, des liens avec Alexandrie, que peut-être on peut explorer un petit peu, mais aussi le lien avec Constantinople et le fait que c'est un symbole aussi de pouvoir vénitien.
Est-ce qu'il y a quelque chose à voir aussi avec le fait que le patriarcat d'Aquilée ait été, on va dire, ressuscité. Est-ce que cette décision du fait de mettre le patriarcat à Aquilée et non à Venise a contribué à cette décision du doge?
Oui, Aquilée joue un rôle très important, pas seulement dans les faits, mais aussi dans la légende de Venise. Parce que selon les chroniques les plus anciennes, par exemple de Venise, ils sont pas nombreux, donc ça vaut la peine de citer cela, les Chronicon Altinate. Les gens d'Aquileia, sur cela, qui se sont transférés à Venise quand ils étaient sous l'attaque des Goths avant et des Attila après, les Huns. Donc Aquileia joue un rôle très important, et aussi le transfert du patriarcat d'Aquileia de la lagune de Venise est très important aussi. Et Aquileia, pour faire une petite digression religieuse, était très particulier parce que apparemment la liturgie d'Aquileia était liée spécifiquement avec la liturgie d'Alexandrie. Donc il y a cette c'est une question de recherche selon moi convaincante, mais très particulière, parce que ça montre que même l'église d'Aquileia pendant le synode qu'ils ont tenu là en 381, ils avaient déjà un lien très fort avec Alexandrie. Peut-être ça explique aussi le lien entre Venise et Alexandrie, une fois que les gens d'Aquileia se sont effectivement transférés sous les îles de la lagune pour se protéger. Mais ils ont amené avec eux la culture avec laquelle ils ont grandi.
Ça, c'est très intéressant. Alors, nous ne reviendrons pas sur le déroulé du vol des reliques par ces deux marchands vénitiens mandatés par le doge. Mais alors, aujourd'hui, Frédéric Loritzen, comment se positionne l'historien, donc, que vous êtes, sur ce récit légendaire et fondateur du mythe vénitien?
Moi, je crois honnêtement qu'il n'y a pas d'argument contre et pas vraiment des arguments à faveur. Donc, c'est un libre domaine. Il y a un côté des fantaisies et ça, c'est le côté légendaire. Mais les légendes, souvent, touchent à quelque chose qui est très important dans l'esprit d'une population. Et il faut pas sous-estimer le pouvoir des légendes. Parce que souvent, ils ont des traces de vérité cachées dans des récits un peu particuliers. Donc, la fondation de Venise, traditionnellement, est datée 25 mars 421. C'est une date auquel les Vénitiens croyaient. Et ça, c'est compliqué. La chose, c'est qu'ils étaient convaincus que les gens d'Aquileia s'étaient transférés à cette époque-là, 421, dans la lagune. Ça, c'est possible, parce qu'il y avait des communautés déjà installées ici au VIe siècle. On ne sait pas comment, car ils étaient des réfugiés. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas aussi situation victorieuse, c'est une situation des sauvetages, d'essayer de rétablir une vie normale, mais pas sur la terre ferme, circondée de l'eau. Donc c'est ça la situation nouvelle. Et la légende de la fondation de Venise est liée, c'est la première étape, parce que la deuxième étape, c'est le transfert des reliques de Saint-Marc, et ça donne la possibilité aux Vénitiens de bâtir leur identité. Ils sont des réfugiés protégés par Saint-Marc. Et ça reste très fort ancré, même aujourd'hui, les Vénitiens sont très liés à cette dynamique et à cette croyance.
Mais alors, le byzantiniste que vous êtes dispose-t-il de sources justement sur cette période un peu, on va dire un peu obscure, hein, où on ne sait pas très bien. Il y a peu de sources finalement. Quelle est la base de votre travail justement pour travailler sur ce récit?
Alors là, on entre directement dans la question des l'autonomie et l'indépendance de Venise vis-à-vis Constantinople. Acceptons-nous pour l'instant que Venise est fondée 421. Ça veut dire qu'elle était fondée comme partie occidentale de l'Empire romain. C'est une fondation romaine, 421. Il y a encore l'Empire romain d'Occident. Après, il y a l'invasion qu'on peut appeler barbare ou pas, selon le goût. Les gens d'Aquileia de la terre ferme se transfèrent dans la lagune. Et là, on est en train de parler du 5e VIe siècle. On n'a pas des sources directement de cette période-là, et les sources en latin sont compliquées, parce qu'ils sont écrits dans un contexte qui est lié au développement de l'Italie et aussi au développement de la région transalpine. La question de l'Empire sacré romain et aussi de la qu'est-ce qu'est la France aujourd'hui. Donc il y a ces dynamiques là qui jouent dans les récits en latin. Par contre, si on fait les met en rapport ces sources là avec les sources byzantines, on voit qu'il y a des certains points de contact. Le récit dans les deux cas accepte qu'ils se sont enfuis de la terre ferme vers Venise sous Attila. Donc, pour les textes grecs et les textes latins, ça c'est sûr. Après, il y a aussi une situation d'indépendance de la lagune vis-à-vis la terre ferme. Et ça, c'est aussi très important. Cette dynamique régionale change à ce moment. Parce qu'il y a la région, qu'est-ce qu'elle s'appelle le Veneto aujourd'hui, avec ses propres saints, par exemple Saint-Martin. Est très important parce qu'il était ennemi des Goths et des Ariens, de l'hérésie arienne s'appelle. Donc ça c'est l'arrière-plan pour la fondation de la basilique. Les gens qui ont bâti cet édifice, ils se sentaient séparés de la dynamique de la terre ferme, du reste de l'Italie, et donc ces sources en langue latine sont problématiques. Parce qu'il y a une continuité entre la présence romaine à Venise et le Constantinople. Dans le Chronicon Latinate, il y a la liste des empereurs qui va de Jules César, qui avait rendu cette partie de l'Italie une partie effective de Rome, en 49 avant Christ, un peu avant. Et il y a la liste des empereurs jusqu'à Alexios Ier Comnenos qui meurt en 1118. Donc, pour eux, les empereurs romains sont à Constantinople.
Alors, revenons à ces reliques de Saint-Marc, à ces fameuses reliques. Là encore, comment l'historien se positionne? Quelle peut être sa contribution sur ce... sur ce fait?
L'importance du Saint-Marc lui-même doit être le point de départ. Le fait de si les reliques sont effectivement Saint-Marc qui était prélevé ou amené de l'Égypte au pas, ça c'est une autre question. Et si les reliques qui sont amenées, c'est celles-là d'Alexandre le Grand, comme disent certains, ça c'est une opinion de certains qui aiment voir un autre type de sainteté, d'une certaine façon c'est irrélevant. Parce que pour les Vénitiens, c'était l'évangéliste qui est arrivé ici au 9e siècle. Et c'est pour ça qu'il bâtit la première des trois églises très importantes, c'est la de Doge Participatio, quand il transfère son palais de Doge dans Venise lui-même, au lieu d'être à Malamocco comme c'était avant. Donc il est à Venise, il y a un rôle important de la zone des Rialto, où il y a le pont, et la nouvelle zone autour de la basilique, où il y a un castrum, une sorte de forteresse. Il y avait des petites forteresses autour de différentes îles. C'est pour ça qu'il y a le nom Castello. Un des quartiers de Venise s'appelle Castello pour cette raison. Et ça, c'est la première église. Il y a une deuxième église du Xe siècle et une troisième du XIe. Mais il faut un peu focaliser sur la question de la continuité. Parce que, oui, ils amènent un nouveau saint ici, mais il continue à vouloir montrer le lien avec le monde de l'Empire romain oriental. Il faut penser que les barbares, en théorie, ils sont jamais mis pied dans la lagune. Donc ça, c'est les Vénitiens pensaient qu'ils étaient les derniers Romains qui étaient là, parce que le reste de l'Italie était envahi et soumise au royaume des Ostro. Théodoric était pas roi à Venise. Ça, ici, c'était une juridiction de l'Empire romain. Donc, c'est des situations où on peut... Ça, le point de vue vénitien est très clair là-dessus. Venise était le seul endroit pas sujet à ces invasions qui ont changé l'histoire de l'Italie. Donc pour eux, bâtir sa marque à l'image de quelque chose qui pour nous semble très oriental, peut-être très byzantin, pour eux c'était naturel. C'était pas une mode, c'était un signe de légitimité.
De continuité.
Et de légitimité.
Alors, la première église est bâtie au IXe siècle. Que sait-on de ce premier édifice, de son architecture et autres?
Ben, on sait surtout que ça n'a pas duré longtemps, dans le sens que c'était détruit vers le 972. Et c'est possible que la partie en pierre et en marbre, s'il y avait à résister à ce feu. Par contre, les parties en bois n'ont pas résisté. Donc, on imagine un édifice, on peut imaginer quelque chose comme l'église principale à Torcello, où il y a le bâtiment en briques, mais le toit est en bois. Donc, si quelque chose comme ça brûle, on a les murs, mais il faut recommencer du début pour sauver qu'est-ce qu'on peut. Soit en réutilisant le matériel, en changeant la structure, soit en faisant un nouveau bâtiment. Ça semble surtout que c'est la troisième église du XIe siècle qui est plus grande. Peut-être la première et la deuxième ont gardé plus ou moins la même forme.
La même structure.
Oui, la même structure, exactement.
Alors donc, cette première église a été brûlée, vous l'avez évoqué, lors d'un incendie. C'était durant une révolte de la ville contre le doge Pietro IV Candiano. Donc, une autre église est reconstruite et là, on décide de s'inspirer du style byzantin. Pourquoi ce choix?
Alors, quand j'avais un peu évoqué, il y a la question des autonomies et indépendances de Venise. On sait que vers le XIIIe siècle ou la fin du XIIe siècle, même un peu avant, c'est clair que Venise est indépendant. Mais à l'époque du bâtiment de la troisième basilique de Saint-Marc, on est entre autonomie et indépendance. Ça veut dire que pour eux, le lien important culturel était un lien byzantin. La question, c'est est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une dépendance des Byzances? On sait qu'à l'époque de l'empereur Constantin X, qui c'est entre 1059 et 1067, les îles du pays qui aujourd'hui s'appelle la Croatie, sur le côté est de l'Adriatique, qui s'appelait la Dalmatie, c'est la région de la Dalmatie, montre leur lien avec Byzance. Et il l'indique clairement. Par contre, les territoires derrière commencent à devenir des états indépendants, des Jupanas et tout ça. Donc, c'est en Adriatique, qui utilise les navires et les bateaux veut maintenir le lien avec Byzance. Il y a une raison aussi stratégique. Bari était byzantine. L'Albanie était byzantine. Donc on ne pouvait pas sortir de l'Adriatique sans Byzance. Très simplement. Par contre, avec Roger le Normand, quand il fait la conquête de Bari en 1081, là, une dynamique nouvelle s'instaure. Parce que ça veut dire que les Vénitiens, soit ils doivent demander aux Normands, soit aux Byzantins pour sortir. Donc, c'est une dynamique très nouvelle. Donc, Saint-Marc, la troisième église, est bâtie avant cette date clé. C'est bâti en style byzantin parce que les Vénitiens étaient très liés à Byzance.
Vous avez évoqué une période entre autonomie, indépendance, etc. Est-ce que Saint-Marc exprime d'une certaine manière cette filiation, donc vous l'avez plus ou moins dit, et paradoxalement, une émancipation de la tutelle byzantine?
Oui, absolument. Je pense qu'il y a une émancipation du fait qu'ils savaient que ce reliquat devait être aux sans-apôtres. à Constantinople. Ça, c'est une chose, même dans le Chronicle Altinate, quand il parle d'un personnage un peu curieux comme Julien l'Apostate, qui avait régné le monde chrétien, peut-être, mais c'est une histoire un peu complexe. Dans le Chronicle Altinate, il décrive le fait que Julien l'Apostate était enterré dans l'église des sans-apôtres à Constantinople. Donc, la chose, c'est que ça, c'est une histoire qui est connue à Byzance. Il y a un texte grec qui a ça. Mais dans le Chronicon Latinate, en latin, dans le Chronicon qui décrit l'origine de Venise, il y a cette histoire. Donc, les Vénitiens connaissaient directement qu'est-ce que c'était les sans-apôtres et, par conséquent, ils connaissaient que le but était d'avoir les quatre évangélistes autour de Constantin. Ça, c'est pas l'imaginaire de la recherche scientifique. Il y a des sources très claires sur la connaissance vénitienne de ça. Donc, il y a un côté émancipation. Ça, c'est clair. Les Vénitiens qui prennent sa marque, c'est un symbole. Mais ça rentre dans la dynamique culturelle byzantine. Il y a aussi une émancipation vis-à-vis Rome, parce que le fait que Marc écrit pour Saint-Pierre, ça veut dire que l'évangile qui en théorie est lié à la figure de Saint-Pierre, qui bien sûr est le fondateur de l'Église à Rome, la base de l'Église à Rome, ça veut dire que les Vénitiens disaient, oui, vous avez Saint-Pierre, mais nous, on a la personne qui a écrit qu'est-ce qu'il voulait Saint-Pierre. Donc, ça, c'est typiquement vénitien. Donc, l'idée de créer un rôle à eux-mêmes vis-à-vis les pouvoirs qu'ils admiraient, parce qu'il y a un côté des liens avec Rome, mais aussi des séparations. Ça, c'est très vénitien.
Alors, les relations entre la République vénitienne et l'Empire byzantin vont contribuer indéniablement à bâtir la richesse de la lagune. De quelle manière la basilique Saint-Marc va-t-elle profiter de cette richesse, de ces échanges culturels ?
Mais on le voit magnifiquement dans le style de la basilique. Et je vous conseille tous les gens qui nous écoutent de venir à Venise le plus tôt possible pour voir la basilique, parce que honnêtement, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qui frappe même sans explication. On entre dans cette église et on voit de l'or qu'on imagine était présent ailleurs.
On l'appelle d'ailleurs la basilique d'or.
Exactement. C'est quelque chose de très frappant. Surtout, imaginez qu'il y avait plusieurs églises de ce type-là à Constantinople. Il n'y a plus ces bâtiments. On a seulement Saint-Marc. Saint-Marc, oui, il y a quelque chose qui pour nous semble byzantin, mais en vérité, c'est une église à Venise. Donc, il y a un style byzantin, mais c'est à Venise. Ça, c'est une dynamique complexe, mais on le voit dans l'évolution du style des mosaïques. Les Vénitiens ont jamais renoncé à appliquer de nouveaux mosaïques dans l'Église jusqu'à la chute de la République. Il y a des choses qui, aux puristes, pourraient sembler un peu kitsch et baroque, des mosaïques des 17e, 18e siècle, mais le fait, c'est qu'ils sont là. Il faut accepter que les Vénitiens, au lieu de dire on change tout, on fait une cathédrale baroque ou de la Renaissance ou au nouveau style à la mode, ils ont dit non, on garde sa marque. Ça c'est très important, par exemple vis-à-vis la basilique de Saint-Pierre à Rome, où il y a un nouveau bâtiment au lieu de la basilique du 4e siècle qui était là jusqu'au 15e, 6e, 16e siècle. Donc Venise fait ses choix très particuliers, mais ça veut dire que quand on entre, on voit des mosaïques du style du 12e siècle, par exemple la Tentation de Christ, qui est un chef d'œuvre du style qui rappelle beaucoup le style de l'époque comnène. Donc ça veut dire des personnages très allongés. Après, c'est un style qu'on revoit dans les icônes de Novgorod en Russie, ou dans la peinture de El Greco. On voit cette type allongé. Mais il y a aussi des styles qui sont différents du 13e siècles qui on reconnaît tout de suite, mais ça c'est après la célèbre quatrième croisade qui est très important pour la basilique, mais aussi du style du 14e, 15e siècle jusqu'à la fin de la République de Venise.
Alors vous évoquez un fait très important, c'est donc le sac de Constantinople en 1204, donc lors de la quatrième croisade. On parle de détournement par le doge donc Enrico Dandolo. Et donc la basilique Saint-Marc, vous l'avez évoqué, va profiter directement de ce sac de Constantinople. Comment ?
Oui, ben on le voit dans le changement de style des mosaïques. Ça, je pense que peut-être il faudrait travailler un peu plus sur ça, parce qu'il y a quelque chose, qui est très fortement lié à l'art byzantin au XIIe siècle, comme j'ai évoqué, XIe, XIIe siècle, par exemple à Paladoro de 1105. Ça, c'est une période exactement clé. Mais le sac de Constantinople nous amène aux choses incroyables qui est important pour tous les Français aussi. C'est les chevaux de Saint-Marc qu'on voit sur la façade, même si c'est des copies pour des raisons. À l'intérieur de la basilique, on voit les originaux. Et ça, c'était des chefs d'œuvre qui venaient de Constantinople lui-même. Peut-être c'était un chariot avec un empereur, avec une couronne, peut-être avec une couronne au rayon de soleil. Donc on peut imaginer, mais on a les chevaux, et les chevaux sont très importants parce que même les grands artistes comme Leonardo da Vinci avaient étudié ça, Dürer même avait étudié ces chevaux. Et c'est des chefs d'œuvre très importants pour l'histoire de l'art, et Napoléon avait apprécié ça à tel point qu'il les avait amenés à Paris. Et c'était quelque chose de très important. Et même en 1815, il y a eu une petite révolte quand les alliés, ils ont essayé de répatrier les chevaux. Il y a eu une proteste même de l'armée française qui essayait de bloquer ça, parce que c'est des sculptures tellement belles que c'est attachant. À la fin, on veut pas s'en séparer. Mais comme Vénitiens, on était tous heureux de revoir ici ces sculptures qui retournent.
Alors, vous évoquez ces chevaux, nous avons évoqué les mosaïques. Est-ce que la basilique recèle d'autres trésors que vous connaissez, qui ne sont peut-être pas connus justement du grand public ?
Je suis sûr que beaucoup de grand public connaît beaucoup de détails de la basilique. Une chose qui souvent il faut pas rater, c'est le trésor, tout simplement. Et il y a et ça c'est lié à la question de la quatrième croisade, parce que les Vénitiens amènent avec eux pas seulement les chevaux, mais aussi beaucoup des gobelets, des objets qui venaient du grand palais des empereurs de Constantinople, qui était dans un cabinet des merveilles, qui était à côté du trône impérial, dans une petite construction qui s'appelait le Pentapurion. Ça semble qu'il avait cinq petites tours, mais peut-être c'était un meuble avec cinq sections différentes où dedans on avait des objets qui maintenant, certains entre eux, on les voit dans le trésor de Saint-Marc. Donc il y a cette situation incroyable. La Paladoro, c'est aussi très important, surtout pour les Vénitiens, parce que pour les grands fêtes, la Paladoro, qui normalement est pas visible au grand public, on la tourne. C'est une grosse pale, hein, on peut dire, un gros structure rectangulaire d'un côté doré avec des aimants et des personnages en aimant avec des bijoux, des pierres précieuses splendides. Et par exemple, pour la fête de Saint-Marc, le 25 avril, cet objet est tourné vers le grand public et on peut le voir quand on est dans la basilique sans aller derrière dans l'apse pour en payant un billet pour regarder.
Alors, que dit la basilique Saint-Marc de ce dialogue à la fois compliqué et très fécond entre l'Orient et l'Occident?
La basilique démontre même aujourd'hui le fait que Venise fait partie de l'Italie, comme République italienne et de la géographie italienne, mais qui est, en vérité, Venise est un point de contact direct avec un monde qui est occasionnellement échappe dans les dynamiques, on peut dire peut-être de la mauvaise façon occidentale, des dynamiques occidentales précisément. Venise montre que c'est possible d'établir des liens et des façons d'interpréter. Il faut simplement des intermédiaires, une façon de lire un monde étrange pour nous. Et accepter qu'il y a certaines zones privilégiées en Europe pour faire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des réponses, mais qu'instinctivement, sur certains sujets, peut-être ils ont des idées qui peuvent aider à faire des liens, tout simplement. L'esthétique de la basilique de Saint-Marc, c'est pas une esthétique typique italienne. Il faut jamais l'oublier. On entre là, les Vénitiens, jusqu'en 1797, pensaient que c'était l'esthétique meilleure pour l'église principale de Venise. Ça, c'est quelque chose que le reste d'Italie a pas accepté. Dès qu'ils ont pu, ils ont abandonné le mosaïque, et ils ont changé de style, avec grand succès. Ça, c'est indéniable. Mais le côté, c'est qu'on entre dans la basilique et on est dans un monde qui échappe. Mais il est là.
Alors, une autre thématique à laquelle renvoie la basilique Saint-Marc, c'est le rapport entre religion et politique à Venise. Comment le définiriez-vous, ce rapport, cette relation ?
Peut-être c'est ça un des aspects qui nous échappe, et peut-être c'est la modernité de Venise qui on accepte pas facilement, parce que Venise, et il y a des côtés de son histoire qui, par exemple, pendant la Révolution française, Napoléon, était considéré rétrograde pour certains aspects. Mais ça, c'était une interprétation très 18e, très début 19e siècle. Si on focalise sur des autres aspects, Venise nous parle de la question, le rapport entre le droit civil et la religion. Ça, c'est un aspect fondamental de Venise, et Venise peut nous donner beaucoup de leçons sur cette question. Les Vénitiens étaient très croyants, et ils étaient très religieux, mais ils avaient de la méfiance pour tout ce qui était administration. Donc, administrer la religion, pour eux, c'était quelque chose d'un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que la basilique de Saint-Marc n'est pas le centre de l'église vénitienne.
Vous voulez dire que le patriarcat est situé ailleurs.
Ailleurs, exactement. Les basiliques de Saint-Marc, c'était la chapelle privée du doge, c'était l'église d'État. L'église de l'église vénitienne, du patriarcat, c'était San Pietro in Castello. Très ancienne église. Mais c'était là le siège de patriarche. Donc, cette division des compétences est très intéressante parce que ça montre un intérêt pour le fidèle individuel, d'une certaine façon. L'individu accepte qu'il y a une administration d'État, une administration d'église, mais la foi, peut-être, c'est quelque chose de différent. Donc, ça, c'est une vision très très vénitienne, et ça dérive. Il y a un lien avec Byzance sur ces sujets-là. L'empereur était considéré comme quelqu'un qui laissait la région aux religieux, mais il aidait sous le côté administratif, ecclésiastique. Ça, c'est aussi un côté important.
Venise s'affirme comme une république laïque, mais qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela signifie dans ce Moyen-Âge où le pouvoir est justement une imbrication entre le politique et le religieux ?
Ça implique qu'il y a, sous certains sujets religieux, la République de Venise n'interférait pas directement. Donc il y a une pratique byzantine qui est très visible à Venise. C'était le fait de permettre aux communautés non catholiques, non chrétiens, d'exercer leur religion sans un intérêt de l'État particulier. On parle souvent du côté répressif de la République de Venise, ça peut être, mais le fait qu'il y avait des fondaci, des endroits où les étrangers pouvaient pratiquer leur commerce, être entre eux et avoir leur propre bâtiment religieux à l'interne, c'est quelque chose d'exceptionnel au Moyen-Âge occidental. C'était une pratique typique byzantine, mais c'est quelque chose d'inattendu à Venise. Donc, il y avait le fonds d'accord des Tedeschi, où il y avait
des
Allemands, exactement, qui est devenu la poste et maintenant il y a quelque chose d'autre, un bâtiment, on peut le visiter, c'est très joli. Mais à côté, il y avait le fonds d'accord des Persiani pour les Iraniens et il y a une île pour les Arméniens. Il y avait le fonds d'accord des Turcs et dans le fonds d'accord des Turcs, il y avait une mosquée. Donc ça, c'était même pendant les guerres, entre les Turcs, les Ottomans et la République de Venise, cette mosquée marchait, c'était une question intéressante. La guerre, c'était pas une guerre entre les personnes, c'était une guerre entre les États. Donc les personnes, à niveau individuel, souvent étaient respectées. Pas toujours. Il y avait la communauté juive qui était très importante. Ils avaient pas seulement le droit d'avoir leur propre synagogue, mais des synagogues de différents types. Donc, c'est incroyable. Ils étaient tolérants, laïcs dans le sens qu'ils laissaient à chacun faire qu'est-ce qu'il voulait. Mais c'est vrai que la religion chrétienne de version catholique était la religion dominante. On peut dire la religion d'État même. Donc c'est une laïcité du Moyen-Âge, une laïcité avant notre époque. Mais ça donne des leçons de comme gérer les gens qui étaient perçus comme différents des apparats étatiques vénitiens. Ils voyaient le bénéfice d'avoir des gens différents ici, qui permettait de comprendre qu'est-ce qui se passait ailleurs. C'est l'histoire des ponts qu'on disait. La basilique nous explique qu'il y a un monde chrétien différent de celui-là auquel on est habitué en Italie, peut-être en France, en Allemagne, en Angleterre. Et les Vénitiens acceptaient ça. La différence, ça veut pas dire nécessairement accepter, mais ça développe la curiosité. On voit qu'est-ce qui se passe ailleurs.
Alors, la basilique Saint-Marc n'est pas le siège du patriarcat de Venise, ainsi que nous l'avons dit. Du coup, il semblerait que le patriarche ait un rôle plutôt mineur au sein de cette basilique. Lors des grandes fêtes, qui préside la célébration, c'est le doge, il me semble. Est-ce que ça veut dire que le doge a un pouvoir religieux, outre le fait d'incarner le pouvoir politique de la République?
Ça c'est une question très compliquée. Et lié directement à la question byzantine. Comme je dis, personnellement, je crois plus au fait que l'empereur était, certaine façon, super parte. Il avait un lieu où il représentait pas seulement le sommet du droit civil, mais c'est là qu'en latin ça s'appelle jus gentium. Donc c'est seulement lui qui pouvait gérer les ambassades et la question des guerres, parce que ça, c'est dehors de la juridiction civile. La juridiction civile, c'est celle-là de la ville, des régions, à l'interne d'un pays. L'empereur était cette exception qui pouvait gérer des autres choses. Un effet très particulier de tous les pays qui ont un lien avec la culture byzantine, une fois que cette figure impériale manque, s'établit souvent des figures où il y a un monarque ou un roi qui forment une sorte de juridiction parallèle à la juridiction ecclésiastique. On le voit avec la théorie au Moyen-Âge de soleil, par exemple. Il y a le pape, l'empereur, et on n'est pas clair de qui est plus important. Ça, c'est une question qui, pour les Byzantins, se posait pas vraiment, mais c'est une question qui se pose aussi dans le monde balkanique, dans la Serbie du Moyen Âge, la Bulgarie du Moyen Âge. Le patriarche bulgare ou le patriarche serbe a un rôle important vis-à-vis le roi local. Et ça arrive à Venise aussi. Donc le patriarche est important, mais ça reste, c'est la focalisation est sur le doge, qui par contre assume quelque chose de religieux. C'est pas très clair si c'est une fonction laïque à la byzantine ou quelque chose de plus religieux. Ça rentre dans la dynamique entre autonomie et indépendance qu'on avait dit avant.
On y revient toujours.
Mais par exemple, le doge avait la possibilité d'être derrière le voile qui séparait la partie de l'autel et de la congrégation. Le doge était du côté religieux de la fonction. Et le voile, ça c'est un voile qui séparait, dans le monde byzantin, on appelle ça une iconostase. Mais les anciens iconostases avaient des voiles. Maintenant, dans le monde orthodoxe, c'est des choses solides avec des icônes. Mais la Venise, jusqu'à 1797, continue à avoir le voile à la byzantine, à la proto-byzantine. Donc il y a des choses qui sont très, très liées à Byzance.
Est-ce que vous diriez que la République de Saint-Marc a promu une sorte de religion civile, l'expression n'est peut-être pas appropriée, mais dont Saint-Marc serait finalement la synthèse, le sanctuaire emblématique en tout cas?
Absolument. Les Vénitiens croyaient qu'ils étaient protégés par Saint-Marc. Et avoir la protection d'un saint si important de la hiérarchie des saints, parce que quand même c'était un évangéliste, ça voulait dire qu'ils avaient la possibilité d'un plus large, une plus large liberté de mouvement, d'action. Donc les Vénitiens se sentaient protégés, ils pouvaient être religieux et civils à leur façon, sans être dépendants soit de Constantinople, soit de Rome. Les Vénitiens étaient toujours dans cette idée qu'il fallait laisser les choses marcher ici localement comme ils voulaient, sans interférer, sans que quelqu'un dehors interfère. Saint-Marc joue un rôle essentiel dans ça, parce qu'ils étaient convaincus que ça marchait parce qu'ils avaient cette protection. Mais c'est une vision un peu particulière des croyants. C'est pas une vision structurée, on peut dire. C'est quelque chose qui devient très important pour l'individu vénitien et aussi pour les structures.
Alors, c'est ma dernière question. De quoi Saint-Marc est-elle le symbole aujourd'hui? Est-ce que pour les Vénitiens, ils la considèrent plutôt comme le symbole d'une histoire glorieuse mais passée? Ou bien est-ce que toute la charge symbolique de Saint-Marc est vivante encore aujourd'hui?
Pour les Vénitiens, Saint-Marc, bizarrement, signifie l'amour. Parce que le 25 avril, la Croix-Rouge a des stands dans la place Saint-Marc où ils vendent des roses rouges que chaque Vénitien doit offrir à son aimé. Et ça, c'est quelque chose qui est hors de Venise, on connaît pas. Mais pour les Vénitiens, c'est il borcolo. On donne ça le jour de la Saint-Marc. Donc, ici à Venise, on célèbre la fête de Saint-Marc, que c'est aussi la fête de la libération en Italie. Donc, on a en fait de l'école ou des institutions le 25 avril. Mais pour les Vénitiens, on pense pas vraiment à la libération. Oui, c'est très important, mais Saint-Marc prime sur ça. C'est plus important. Chacun va à la place Saint-Marc, prend le boccolo, l'offre à qui il veut, et ça montre un peu la situation où la fête de Saint-Marc est très importante pour les Vénitiens du point de vue local. Les Vénitiens croient aussi que Saint-Marc c'est un des saints les plus importants de l'Église catholique. Donc ils croient qu'ils sont protégés par quelqu'un qui est le protecteur meilleur d'ailleurs. Il y a une certaine importance vénitienne dans tout ça. Donc, pour eux, la basilique, c'est un bâtiment magnifique, très important, symbolique du grand passé de Venise, mais symbolique du présent de Venise aussi. Venise, c'est ça. C'est quand on entre à la basilique, on comprend des choses qu'on ne peut pas comprendre ailleurs. Soit du point de vue culturel, soit du point de vue religieux, mais aussi dans cette laïcité qu'on avait évoquée. Tout ça, pour les Vénitiens, c'est automatique. Pour les gens qui viennent hors de Venise, la basilique, c'est un monument qui reflète un passé. Pour nous, c'est quelque chose de vivant. Et on voudrait bien que ce soit respecté. Jusqu'à récemment, on payait pas un billet pour entrer dans la basilique parce que la basilique, c'est un lieu de pèlerinage, selon les Vénitiens. C'est l'idée qu'on doit payer pour voir le corps de sa marque, c'est pas possible pour ces questions des croyances personnelles. Donc, il y avait des problèmes parce que il faut maintenir la basilique avec clairement des sous, mais ça vient pas des billets pour entrer à la basilique. C'était souvent les billets pour aller sous le campanile, sous le clocher pour voir la vue. Donc ça, c'est, mais tout ça rentre dans le fait que ça marque, et la basilique, c'est quelque chose de concret, des Vénitiens et des symboliques aujourd'hui pour Venise. Et peut-être c'est l'indication des directions futures aussi pour la ville. Il faut pas oublier ce mélange culturel. L'Europe, c'est pas seulement certains pays qui sont plus importants peut-être économiquement, politiquement, mais c'est un groupe de pays qui se voit qui voit dans la basilique comme le point central culturel entre le monde chez nous et le monde ailleurs, moins familier.
Merci beaucoup Frédéric Loritzen pour ces explications passionnantes. Vous êtes donc historien, byzantiniste, vénitien. Vous travaillez au sein, je le précise, de la prestigieuse Scuola Grande de San Marco, ici à Venise. Merci à tous, chers auditeurs, et à très bientôt.